Bonjour amis auditeurs de Radio Grand Ciel et bienvenue dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire et l'iconographie chrétienne. J'ai le plaisir d'avoir avec moi dans le studio aujourd'hui Hugues Pasquier. Bonjour Hugues Pasquier.
Bonjour.
Il est docteur de l'école du Louvre et spécialisé dans les fils métalliques dans les textiles. Et effectivement aujourd'hui, nous allons parler du vestiaire sacré, de la matière et la couleur dans la liturgie. Et je veux vous présenter à nos auditeurs. Vous étiez chargé dans l'écomusée du Perche de l'inventaire et du récollement. Vous allez nous expliquer tout à l'heure ce qu'est le récollement dans le cadre d'un inventaire. Et puis plus récemment, vous étiez l'un des deux commissaires scientifiques de l'exposition sur le vestiaire sacré en Eure-et-Loire, exposition organisée au mois de juillet et septembre dans le château de Maintenon. Alors, vestiaire sacré, matière et couleur dans la liturgie, quel rapport donc avec le récollement dont vous étiez responsable à l'écomusée du Perche ?
Donc le Perche est une ancienne région drapière et toilière en France. Donc il y a d'importantes collections textiles dans ce musée d'art populaire et de tradition populaire. Donc j'étais chargée d'organiser le récollement décennal imposé par la loi de 2004 sur les musées de France. Oui. C'est-à-dire que des anciens inventaires ont été dressés au cours du XXe siècle. Et puis le récollement, donc on pointe cet inventaire, on vérifie que les choses sont toujours en place, toujours en bon état de conservation ou le contraire, en mauvais état. Et soit on les soustrait de l'inventaire parce qu'on ne va pas garder dans les collections publiques des objets
abîmés
qu'on ne retrouve plus, qui n'ont plus leur forme, qu'on ne sait plus exactement comment les exposer, comment les entretenir. Mmh. Et sinon, ceux qui ne sont pas inventoriés dans le cadre du récollement, donc on leur attribue un numéro d'inventaire pour les rentrer dans les collections publiques.
Très bien. Voilà. Donc dans l'écomusée du Perche, on a aussi une importante collection de
Vêtements de différentes époques qui vont essentiellement donc de la fin du XVIIe siècle jusqu'au début du XXe, milieu du XXe siècle. Donc ce sont surtout des coiffes traditionnelles, des trousseaux de mariage, et puis on a quelques parures liturgiques, mais qui sont essentiellement donc des linges blancs, hein, c'est-à-dire des nappes d'autel, des dentelles, puisqu'on est près d'Alençon et près d'Argentan. Donc ce ne sont pas des grands ornements, comme on peut voir dans les trésors d'église, et qui ont été montrés à l'exposition.
Donc plutôt de le costume traditionnel,
le costume traditionnel
qui a marqué la région.
Qui a marqué la région, et le Perche s'étend aussi en Eure-et-Loire, et la Beauce, la région chartraine, vivait en partie du commerce de ces draps et était sur le chemin commercial jusqu'à Paris de ces draps.
Donc il y avait une importance de la ville de Chartres au Moyen-Âge sans doute à cause de la fabrication des drapiers.
Oui, il y avait une corporation drapière à Chartres, sauf qu'à Chartres c'était un pays plutôt de chanvre, et puis le Perche était un pays de lin. Donc en fin de compte, le lin transité par Chartres, qui était une étape sur la route vers Paris depuis le Perche, depuis Mortagne, depuis Nogent-le-Rotrou. Et puis Chartres, donc évidemment, envoyait ses draps à vendre sur le marché de Saint-Germain-en-Laye ou de Paris, mais plutôt des draps de chanvre.
Mais les vastes plaines de la Beauce ont dû se prêter aussi à l'élevage. Est-ce que la laine jouait aussi un rôle important dans la production
Alors,
de tissus
Pas en Beauce. Ce n'était pas un pays lainier. Il y avait de l'élevage, mais pas au point de faire un commerce de draps de laine. La laine était plutôt en Normandie. Dans la région de Rouen, et peut-être un petit peu plus aussi dans le Maine. Mmh.
Voilà. Alors effectivement, on constate depuis plusieurs années, à la suite de différentes expositions temporaires, comme celle organisée plus récemment au mois de juillet et septembre au château de Maintenon, en été 2008, un regain d'intérêt pour les vêtements des temps passés. Et des musées d'art sacré se sont ouverts et on prend conscience un peu de l'extraordinaire intérêt justement des vêtements et ornements liturgiques, le sujet de l'exposition au château de Maintenon, le vestiaire sacré. Donc c'est l'art de la chasublerie, l'art de la paramantica. Alors est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs quelles sont les matières utilisées pour fabriquer ces vêtements?
Alors, je dois dire pourquoi le regain d'intérêt sur le vestiaire sacré. On observe que la frontière entre le profane et le sacré qu'on veut mettre aujourd'hui n'existait pas à ce point anciennement. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a eu de nombreuses donations par le peuple, comme par les nobles, comme par les bourgeois à l'église de vêtements, de tissus, pour honorer Dieu, le culte. Et que, en fin de compte, le vestiaire sacré d'aujourd'hui est un formidable répertoire des tissus anciens et permet de tracer l'histoire des arts décoratifs textiles comme un livre d'échantillons, quelque part. Donc voilà déjà le premier intérêt pour les historiens d'art, de se pencher sur le vestiaire sacré. Ensuite, l'Église, aujourd'hui, veut conserver ce patrimoine. Et donc, les deux intérêts se rejoignent.
Et justement, Anne-Marie Joly, avec laquelle vous avez collaboré, vous avez dressé un inventaire en Eure-et-Loire
des... Voilà. Alors donc, les monuments historiques et la conservation des objets d'art du département, pendant 5 à 6 années, ont arpenté les églises, parce qu'il faut dire que le plus gros du travail d'une conservation d'antiquités d'objets d'art, ce sont l'entretien donc des bâtiments et des objets, et dans les départements, ce sont souvent des églises. Donc... restauration des bâtiments d'église en partenariat avec les commissions d'art sacré. Et puis ensuite au sein des bâtiments, donc les visites d'orfèvrerie et du vestiaire, des vêtements. Donc les deux grosses parties qui sont encore conservées dans les églises actuellement.
Donc on aura l'occasion de parler justement de vos trouvailles et de l'état de conservation de ces vêtements qui n'étaient pas toujours conservés dans les meilleures conditions, j'imagine.
Alors voilà, mais le débat n'est pas récent. Hein. On a déjà dans les manuscrits depuis le XVIe siècle, la fin du XVIe siècle, le XVIIe siècle, des visites qui, à l'époque, donc, étaient faites par les autorités ecclésiastiques, hein, des sacristies, et qu'ils disaient que les sacristies, les placards, étaient indignes de conserver les ornements dévoués au culte.
Parce qu'ils étaient d'une très grande richesse. Les broderies étaient absolument superbes. Alors, même à la campagne ?
Oui, oui, oui. Il faut savoir qu'on ne se rend pas bien compte que les textiles, hein, quels qu'ils soient, même d'une matière qui aujourd'hui peut nous paraître ordinaire, étaient coûteuses. Tout était fait à la main. Les métiers étaient volumineux, hein, quand même. C'était des tirants sur 1 mètre, 52 mètres parfois. Et tout ça demandait énormément de temps. Une bande d'étoffe, par exemple, brodée, qui fait 50 cm de large sur 1,50 m, quand on faisait une broderie d'or et d'argent, ça pouvait mettre 1 an et demi à 2 ans à être faite par 1 ou 2 brodeurs. Et aujourd'hui, on ne se rend pas compte du temps consacré à ces ouvrages. Et en fait, ce n'est pas forcément la richesse de la matière, mais c'est le temps consacré à ce genre d'ouvrage qui en faisait un grand prix.
On va en parler après une petite pause musicale. Nous revoilà sur Radio Grand Ciel. Après ce kyrie de la messe de Notre-Dame de Guillaume de Machaut, 14e siècle, nous sommes à nouveau avec Hugues Pasquier, docteur de l'école du Louvre, qui nous parle aujourd'hui du vestiaire sacré, de la matière, de la couleur dans la liturgie. Et nous parlions à l'instant même de la matière et de la richesse des vêtements et ornements liturgiques. Permettez-moi de citer Jean-Marc Florent, qui a écrit dans L'âge d'or de la chasse hublerie, qu'en respectant les anciens ornements liturgiques, on respecte avant tout l'éblouissant travail humain qu'ils représentent et on rend ainsi hommage aux hommes et aux femmes qui ont accompli ces chefs-d'œuvre sans compter ni leur temps, ni leur fatigue pour la plus grande gloire de Dieu et de l'Église. Parce que vous disiez, cher Hugues Pasquier, à l'instant même, que parfois pour certains ornements, plusieurs personnes travaillaient pendant plusieurs années.
Oui.
Voilà,
oui.
Donc, quelle est cette liturgie, quelle est la définition de la liturgie qui fait que l'on a créé ces richesses, que nous admirons aujourd'hui encore?
Alors, la définition du mot grec, donc, c'est service public du culte. Donc là, tout est dit. Et ensuite, on appelle le cérémonial, qui est donc la règle, les règles, l'ordre donné pour mettre en place cette liturgie, donc ce culte officiel d'une église.
Donc à la gloire de Dieu.
À la gloire de Dieu.
Et comme c'est à la gloire de Dieu, comme les églises étaient aussi à la gloire de Dieu, les temples de Dieu, il faut que tout soit parfait, tout soit riche et admirable.
Tout soit à la gloire de Dieu. Je suis hésitant à dire riche, en fait, parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, l'église ne prenait absolument pas d'avoir des draps d'or, des draps d'argent, des choses somptueuses. Non, le rapport à la matière or-argent, par exemple, n'était pas du tout le même que le roi ou les nobles, où c'était vraiment
un signe extérieur de leur fonction royale.
Pour le roi, mais alors pour l'Église, ce n'était pas du tout ça. Le drap d'or, par exemple, l'or, n'était absolument pas une couleur liturgique prescrite par les codes. Il pouvait être employé en remplacement de certaines couleurs, parce qu'il faut savoir qu'à l'origine, dans les premières communautés chrétiennes, c'était la matière qui a compté, et on a seulement codifié les couleurs petit à petit pendant le Moyen-Âge, et puis les premiers écrits qu'on conserve aujourd'hui, qui nous donnent des règles sur ces couleurs et sur leur utilisation pour la gloire de Dieu, c'est à partir du XIIIe siècle.
Donc auparavant, que revêtaient les prêtres?
Alors, il n'y avait pas de prêtre au départ, hein, dans les premières communautés chrétiennes à Rome. Et donc, en fait, l'officiant, hein, le personnage qui, enfin, l'homme qui faisait le culte, qui prêchait, était dans son habit de tous les jours. Sauf qu'il devait célébrer dans un habit propre, en fait. Et donc.
Donc, il n'y avait pas de prescription
pour prescription.
La forme du vêtement,
non,
pour
il
la
avait pas
couleur
d'écrit, de toute façon.
Ni pour la matière, est-ce que c'est du lin, du coton, de
alors,
la laine
très
ou de la
souvent,
soie.
Anciennement, c'était lin et chanvre, et à Rome hein, aussi, c'était lin et chanvre. Et donc, en fait, on appelait ça la bisse, donc qui a donné le blanc, après. Donc, la bisse, c'est tout simplement une toile au naturel, propre, qui était rouillée et taillée, et sans aucune teinte.
Et donc, là, il faut peut-être expliquer le rouille.
Rouille. Eh bien, en fin de compte, on traitait le lin et le chanvre pour assouplir les fibres et pour pouvoir le tisser. Mmh. Donc, ce sont deux techniques. Alors, une qui est à sec par pincement, hachement, en fait.
Des fibres.
Des fibres. Et puis, le taillage, c'était un traitement à chaud, un peu par vapeur, si vous voulez, pour assouplir les fibres et pour un peu les stabiliser, parce qu'il faut dire que sec, ça sentait le foin, entre guillemets, si je puis dire, le lin. Voilà.
Et on pouvait donc faire partir cet odorat de la matière,
en
travaillant à la vapeur.
Voilà. Et puis, ça permettait d'éliminer les insectes, s'il y en avait. Et donc éviter le pourrissement prématuré des vêtements et éviter aussi que ces vêtements prennent des teintes en travaillant au soleil, par exemple. Parce que le soleil et les lunes, effectivement, décolorent les fibres, même non teintes, les usent. Et donc de traiter à chaud et à froid les fibres permettait d'avoir un vieillissement ralenti, si je puis dire, des tissus.
Mais sans doute aucun vêtement de cette époque
On conserve des textiles du 7e, 8e siècle, par exemple, au Mont-Saint-Michel, qui ont été exposés donc, aussi au début de l'année par Josiane Pagnon, donc, dans le département de la Manche, qui a fait une exposition similaire à la nôtre sur son vestiaire départemental, donc du département de la Manche. Et on conserve également, par exemple, à la cathédrale de Chartres, des fragments du 8e siècle ou du 9e siècle avec le voile de Saint-Irène qui enveloppait la relique de la Sainte Chemise.
C'est exact, oui. Vous parliez de cette exposition des ornements liturgiques dans la Manche. Donc, fin 2007, un superbe ouvrage, d'ailleurs, a été publié. Et l'exposition de maintenant a donné l'occasion aussi à la publication d'un superbe ouvrage sur cette exposition organisée dans le château de maintenant, sur le vestiaire sacré. Donc on parlait des premiers costumes portés par les premiers... Bon, vous ne vouliez pas les appeler prêtres, je les appelle prêtres quand même. Et ensuite, comment va évoluer l'ornement liturgique? Est-ce qu'il y aura des prescriptions ultérieurement?
Alors après, avant d'avoir les prescriptions, en fait, on va voir apparaître, mais on ne sait pas à quelle époque, on va recouvrir l'habit ordinaire par une toile. Hein, c'est un peu l'ancêtre de la chasuble, si vous voulez. Toujours pour un problème de propreté et un peu, enfin, à la gloire de Dieu, quoi.
Cousu d'un seul morceau, j'imagine, qu'on enfilait, oui, il y avait une ouverture, voilà. Comme la chasuble voilà. Aujourd'hui, qu'on enfile par-dessus la tête.
Oui, voilà. Et puis ensuite, évidemment, hein, le clergé et l'Église va s'organiser petit à petit après la chute de l'Empire romain, donc on va codifier, on va avoir des cultes et des communautés plus importantes. Donc là, on va apparaître des codes vestimentaires.
Voilà, et à partir de quel moment le code vestimentaire est fixé, plus ou moins définitivement, en respectant naturellement les particularités des différents diocèses?
Alors, en fait, la fixation est très très tardive. 16e siècle, à peu près, hein, c'est le Concile de Trente qui va fixer les choses. Et avant, en fait, on voit un certain nombre donc d'ouvrages qui mettent en place des règles, mais très sporadiquement et localement. En fait.
On va en parler après la petite pause musicale. Après ce Gloria de la messe de Notre-Dame de Guillaume de Machaut, nous avons le plaisir de continuer notre entretien avec Hugues Pasquier. Et nous parlons aujourd'hui du vestiaire sacré, les matières et la couleur dans la liturgie. Alors, on parlait des prescriptions concernant justement les couleurs utilisées dans la liturgie. Hugues Pasquier.
Oui, donc très rapidement, on conserve des documents manuscrits depuis le XIIIe siècle et puis jusqu'à aujourd'hui. Et le pape, hein, les autorités ecclésiastiques se penchent toujours sur la liturgie, hein, le culte et le service public du...
La patristique, effectivement, s'est beaucoup préoccupée des couleurs, de leur valeur symbolique. Et donc, on a fixé ces règles au Concile de Trente. Et plus récemment...
Voilà, donc les règles instituées juste après le Concile de Trente, parce que le propre du Concile de Trente n'était pas de prescrire la liturgie. Donc, consécutivement au Concile de Trente, on a réécrit et on a remis en place des règles sur l'utilisation des matières et des couleurs, et notamment des couleurs. Parce qu'en fait, les matières, il est beaucoup plus difficile de prescrire les matières puisqu'on ne trouve pas les plantes partout. Hein. Donc on ne peut pas imposer une matière dans toutes les régions qui étaient chrétiennes. Donc en fait, on a prescrit les couleurs, donc les teintures, les teintes. Donc on voit apparaître cette codification après le Concile de Trente, donc dans les années 1570-1590, qui vont rester constantes jusqu'en 1962. Avec des révisions un petit peu des textes parce qu'il fallait que ça soit compréhensible de tout le monde. Donc on a réactualisé les écrits comme on a modernisé les textes de l'évangile pour que ce soit à la portée de tout le monde, des fidèles, et non pas qu'on soit obligé d'être des érudits latins, d'avoir fait du latin pendant des années pour comprendre. Et donc, en fait, après le Concile de Vatican II, donc, Paul VI a institué une liturgie abrégée, plus facile à mettre en place dans toutes les régions chrétiennes en 1970. Voilà. Et donc,
il y a eu des changements dans les prescriptions concernant les couleurs de la liturgie.
Alors, la prescription proprement dite des couleurs n'a pas changé. En fait, ce qu'on observe entre le XIIIe siècle et le XIXe siècle, ou début du XXe siècle, c'est que les usages locaux l'ont emporté par tradition orandi de l'Église. Donc, c'est-à-dire que les usages locaux
ont été respectés,
ou du moins ont été imposés par les évêques, en fait, plus exactement.
Encore à Lyon, on porte le gris cendré qui n'existe pas dans d'autres diocèses.
Voilà, ça c'est la liturgie gallicane, en fait, en France. On avait l'habitude de voir sur les costumes des gens donc certaines teintes qui n'existaient pas en Italie. On avait des substances qui n'existaient pas en Italie, et on les a gardées. À l'encontre, si je puis dire, du missel romain et des prescriptions du siège apostolique romain, par usage.
Et parce que la tradition était très ancienne,
tradition.
Par respect pour cette très ancienne tradition.
Et en fait, le pape acceptait pendant des siècles, et l'Église acceptait pendant des siècles, que les usages l'emportent, puisque ça ne portait aucun préjudice à l'ordre moral, à l'ordre spirituel, au respect de Dieu. Et donc, les débats qui ont pu avoir lieu récemment n'avait pas lieu d'être anciennement, puisque l'important était la dévotion à Dieu. Et la couleur, on pouvait faire des entorses quelquefois du moment qu'on ne parjurait pas.
Le bleu, par exemple. Le bleu existe en certains diocèses,
alors
qu'en général,
il faut savoir, par exemple, le manteau de sacre des rois de France, qui était quand même le bras de l'Église, hein, la France, le roi de France, le manteau était bleu. Alors, quand j'entends que le bleu n'est pas une couleur liturgique, c'est absolument faux. Puisque on n'aurait jamais sacré le roi de France, le plus grand roi catholique de la chrétienté, hein, en bleu, si ça n'avait pas été une couleur liturgique. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas prescrit dans le missel romain comme un usage du temps liturgique. Donc ce n'est pas qu'on interdit l'usage du bleu, c'est qu'il n'est pas codifié. Le bleu était en fait admis en remplacement de certaines couleurs dans certains diocèses parce qu'on avait des teintures bleues localement. Donc on les utilise.
Mais c'est vrai que chez les Romains, le bleu était au plus bas de l'échelle des valeurs, des couleurs.
Oui.
Et ce sont les rois de France, au milieu du XIIe siècle, je crois que c'est Louis V ou Louis VI, qui vont introduire le bleu dans les armoiries. Et Saint Louis, Louis IX, va finalement être le premier roi de France à porter un manteau bleu.
Oui.
C'est donc un usage assez ancien, mais tardif par rapport aux usages romains.
Oui. Alors l'usage romain, donc, c'était le blanc hein, au départ, puisqu'on entendait par blanc, c'est dérivé du bis, c'est-à-dire la couleur ordinaire, la couleur sans teinte. Hein. Donc la pureté. Ensuite, on a mis des valeurs morales, des valeurs spirituelles.
Alors
aux
le
couleurs
rouge, parlons-en. Le rouge, donc, est utilisé pour la Pentecôte.
Alors le rouge, tout de suite, c'était le sacrifice du Fils de Dieu, hein, c'était le sang, c'était donc tout ce qui va être en rapport avec Dieu, la passion, les fêtes christiques. Alors, c'est-à-dire les saints martyrs qui ont versé leur sang. Le seul problème, c'est qu'un saint peut être honoré pour son martyr comme pour sa vie. Dans ce cas-là, il avait deux fêtes dans les calendriers liturgiques anciens. Il avait une fête en tant que martyr qui se célébrait en rouge, et puis il avait une fête ordinaire comme un saint qui pouvait être en blanc. Voilà.
Blanc. Et le vert, couleur de l'espérance.
Alors le vert donc était la couleur de l'espérance, des moissons, du renouveau. Et donc ça c'était réservé au temps qui suit l'épiphanie, et avant le temps de carême de pénitence. Donc si vous voulez, c'était la couleur de l'évangile pris dans l'ordre des textes qui se succèdent, sans aucune fête particulière.
Le noir est utilisé aussi ?
Alors le noir était utilisé, seulement le noir est entré dans la liturgie assez tardivement en fait, parce que les teintures noires étaient peu fixes anciennement, donc c'était très difficile. On utilisait plutôt le violet.
Voilà, est-ce que vous savez comment on obtenait une belle teinte noire ? Parce que les plantes tincturiales sont parfois le fruit de découvertes par hasard.
Alors je n'ai pas ramené mes documents sur les teintures noires, mais en gros on mettait 7 pigments différents pour obtenir le noir, donc c'était un mélange de plusieurs couleurs, donc on avait des teintures de garance, de gaude, avec du bleu, et on mélangeait peu de vert, donc voilà, c'était une surcharge de teintes en fait, qui obtenait
pour obtenir un noir saturé,
de grand teint, voilà.
De grand teint, donc, qui ne se délave pas.
Délavait peu facilement, parce qu'en fait c'était chauffé à plusieurs températures, et donc on ne pouvait pas d'éteindre tous les colorants à la même température. Donc en fait, ça conservait la couleur mieux. Ce noir de grand teint.
Voilà. Et vous parliez du violet, autre couleur liturgique.
Alors le violet donc était souvent donc associé à la pénitence, à la semaine sainte, au carême, aussi à une certaine époque, au temps de l'Avent. En fin de compte, on se préparait aux grandes fêtes, donc à Noël, à Pâques, et aussi à la mort. Pendant un temps, on célébrait les offices des morts en violet. Voilà.
Donc on a parlé des couleurs liturgiques, et les couleurs dans les tissus sont le résultat de l'utilisation de différentes plantes tinctoriales. Mais peut-être vous vouliez encore nous parler un peu de la fonction, de la valeur symbolique des différentes couleurs en général.
Alors, par exemple, à Chartres, on avait une grande importance du blanc et du rouge, parce que donc on était un sanctuaire marial, et que la pureté de Marie était le blanc, et puis la somptuosité royale imposait le rouge. Donc on a dans le vestiaire ancien et dans les inventaires anciens des églises, on constate qu'on a pratiquement 80% d'ornements blancs et rouges dans le diocèse de Chartres, qui était très étendu, qui était de la Seine à la Loire. Ça représenterait pratiquement le diocèse de Versailles et de Blois réunis aujourd'hui.
C'est un sujet passionnant. Hugues Pasquier, merci beaucoup de nous avoir parlé du vestiaire sacré. Nous allons refaire une autre émission, et nous terminons notre émission aujourd'hui avec l'Alléluia de la Missa Ecce Angela Domini de Guillaume Dufay. Merci beaucoup encore, merci à la technique. Au revoir chers auditeurs de Radio Grand Ciel.